La foi authentique. On parlait de la foi. La foi qui vient vraiment de Dieu, mais de Dieu seul. Jean chapitre 5, verset 44. Jean chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus ici développe un point très très important. Il fait état de quelque chose qui se cache dans le cœur de quelqu'un. Et on parlait de ça, c'est justement qu'est-ce qui fait que certains croient, mais ça va pas jusqu'à la fin, ça va pas jusqu'au bout, c'est pas une foi authentique. Ben c'est justement parce qu'il dit ici, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? La vraie foi tire sa force de Dieu seul, elle trouve son appui, elle trouve sa ressource en Dieu seul, sa gloire est seulement en Dieu. Elle ne recherche que la gloire de Dieu. Ça, c'est la vraie foi, la foi qui vient du cœur. Mais il y a toutes les autres personnes qui dépendent un petit peu de Dieu ou qui commencent avec une sorte de foi, un semblant de foi. Mais en chemin, c'est pas la foi authentique. C'est pas une foi authentique. C'est une foi comme elle semble bonne au début, mais à un moment donné, c'est la gloire des hommes qui rentre en ligne de compte. Puis quand c'est la gloire des hommes, c'est pas une foi authentique. Parce que mercredi passé, j'ai dit que pour venir à la croix, quand on veut venir à l'autel, le sacrificateur qui entrait à l'autel, qui venait vers l'autel, devait premièrement se dépouiller de son vieux vêtement, de son vêtement personnel, et revêtir un vêtement de fin lin. La première condition à la vraie foi, c'est de se dépouiller de sa propre justice, de se dépouiller de tout ce qui fait notre gloire personnelle, notre appui, de s'appuyer sur nous, sur les hommes, sur les choses naturelles, de se dépouiller de cette propre justice-là, puis de revêtir le fin lin, la justice de Christ. Parce que la foi authentique, elle commence là. Elle commence le jour où qu'on reconnaît que notre propre justice ne peut pas suffire à Dieu, ça ne plaît pas à Dieu, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Donc j'ai besoin de recevoir la justice de Christ, la justice d'un autre, parce que je ne suis pas juste en moi-même. Puis on voit ça, 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14. 1 Samuel 13, 8 à 14. On voit ça dans la vie de Saül, du roi Saül, justement. Sa foi n'était pas authentique. Il avait une semblant de foi, mais elle n'était pas entière. On pourrait dire le mot entière. 1 Samuel 13, les versets 8 à 14. C'est ici l'histoire du roi Saül, le premier roi d'Israël. Le prophète Samuel lui avait demandé d'attendre 7 jours. Puis on voit qu'est-ce qui s'est passé. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, le prophète. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste, ce qui était contraire à l'ordre de Samuel, parce que Samuel avait dit, Attends 7 jours. Puis je vais venir et je vais offrir l'Holocauste. Saül, il a attendu ce jour. Mais là, la septième journée, les gens ont commencé à s'éloigner de lui. Le peuple, parce il avait été roi, mais le peuple commençait à s'éloigner de lui parce que Samuel n'arrivait pas. Ça dit au verset 10, comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour lui parler. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On voit la vie de Saül, un homme qui avait été loin de Dieu. On pourrait dire l'image d'un homme appelé au ministère, qui commence un ministère. Mais à quelque part, il y avait dans le fond de son cœur, sa foi n'était pas entière, sa foi n'était pas authentique. Parce qu'il cherchait encore la gloire des hommes. Parce qu'il était encore revêtu de sa propre justice. Il pensait encore que par lui-même, il pouvait offrir l'Holocauste. Par lui-même, il pouvait pourvoir à ce qui manquait. Puis par lui-même, il pouvait devancer le plan de Dieu puis dire, bon ben là, le prophète n'arrive pas. Moi, je vais régler la situation. Moi, je vais prendre sur moi. Je vais offrir l'Holocauste. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui s'est pas assez humilié dans sa vie pour reconnaître que seule la justice de Christ satisfait. C'est seulement la justice de Christ qui satisfait, pas la mienne. La mienne ne suffit pas. Je ne peux pas offrir l'Holocauste. Je ne peux pas faire les choses à la place de Dieu. Je dois attendre Dieu. Je dois attendre sa parole, sa direction, sa justice, sa sagesse, sa force. C'est ça, ne pas mettre sa gloire en lui-même ou dans les hommes, mais la mettre en Dieu seul. Une foi authentique, c'est une foi qui est complètement centrée sur Dieu. Mais pour être centré sur Dieu, il faut que tu te dépouilles de toi-même. Parce que si tu ne te dépouilles pas de toi-même, ça fait une foi qui n'est pas authentique, ça fait une foi folle, une foi qui a encore de la folie. La folie en elle, c'est l'image, on voit la vie de Saül, c'est l'image des vierges folles aujourd'hui. C'est l'image des gens qui peuvent avoir un certain ministère en Dieu, qui font office, qui sont serviteurs de Dieu. Mais il y a de la folie en eux. Leur foi n'est pas authentique parce qu'ils cherchent encore la gloire des hommes. Ils pensent encore qu'en eux-mêmes, ils peuvent satisfaire Dieu, par eux-mêmes, par leur propre force. Mais ça ne passe pas. Ça n'a jamais passé. Puis ça ne passera jamais non plus devant Dieu. Parce que Dieu, lui, voit le cœur. Il voyait que Saül n'était pas un homme selon son cœur. C'est ça que ça dit. Le prophète dit, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Un homme, selon son cœur, c'est un homme qui. Son cœur va tout entier vers Dieu. Son cœur est dirigé vers Dieu parce qu'il a renoncé à lui-même. Son cœur est tout entier pour la gloire de Dieu. Mais un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu, il est en partie pour Dieu, mais en même temps, c'est comme s'il y a de la folie. Il est en partie pour. Il cherche encore sa gloire, il ne s'est pas dépouillé de lui-même. Il pense que ses ressources suffisent encore. Dans Galates, ça dit, quoique nous sommes rien. Hein? Galates 6. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il n'ait rien, il s'illusionne lui-même. Nous ne sommes rien en nous-mêmes et nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nous-mêmes. Ça prend le vêtement de Jésus. Ça prend recevoir sa justice sur nous. Il est tout. Il est notre sagesse. On ne peut pas agir par nous-mêmes non plus. On ne peut pas décider quand. Ça dit dans Proverbe 19, 2. Celui qui agit avec précipitation ne manque pas de péché. Il tombe dans le péché. Il précipite, c'est pas. Il va avant Dieu. Il devance le plan de Dieu. C'est ce que Saül a fait. Il a devancé le plan de Dieu. Le prophète n'arrive pas, on va faire quelque chose, on va régler la situation, on va se faire violence. Ça, c'est la folie. C'est le cœur qui n'est pas encore tout entier à Dieu. Mais Dieu se cherche, tourne, c'est-à-dire qu'il parcourt la terre du regard pour chercher ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est important pour Dieu d'avoir des cœurs tout entiers. Parce que c'est ça qui lui est agréable. Dieu veut qu'on se dépouille de toute notre justice, de tout notre moi, pour justement que notre cœur soit tout entier. D'apprendre à dépendre de lui pour tout, pour la force, la sagesse, la justice, la direction, savoir attendre son temps. Dans Isaïe 52, verset 12, ça dit « Ne sortez pas avec précipitation, car l'Éternel ira devant vous. » Thomas dit, quand on en fait quelque chose, on doit attendre le oui de Dieu. Ne sortez pas avec précipitation. L'Éternel ira devant vous et l'Éternel fermera votre marche. Et Dieu veut marcher avec nous. La foi, c'est on le fait en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais tout ce qu'on fait, on le fait sous la direction de Dieu, avec la sagesse de Dieu, dans le temps de Dieu. C'est important. On voit la différence de Saül puis de David. La différence entre Saül qui était un homme avec un peu de folie, l'image des vierges folles aujourd'hui, puis on voit David à côté qui était un homme selon le cœur de Dieu. C'était quoi la différence entre Saül puis David qui était un homme selon le cœur de Dieu? On le voit en Psaume 20, versets 8 à 10. Psaume 20. Versets 8 à 10. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'aimons. On voit comment la vie de David, il mettait sa confiance entièrement en Dieu. Ça, c'est une foi authentique. Entier en Dieu. Il dit, eux, ils s'appuient sur leur char, eux, ils s'appuient sur leurs chevaux. Mais c'est une image. C'est Saül. Ben, Saül s'est appuyé sur sa sagesse, sur sa manière de faire les choses. Mais c'est l'image des chrétiens charnels aujourd'hui, des chrétiens... des vierges folles, qui s'appuient sur leur propre sagesse, sur leur propre direction, sur leurs chevaux, autrement dit, sur leur force. Mais le vrai chrétien authentique, il s'appuie sur Dieu. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui notre force. Nous cherchons notre gloire en Dieu seul, pas les uns des autres. C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que on reconnaît qu'en nous-mêmes, que dans notre propre force, dans les gens autour de nous non plus, c'est pas... le salut ne vient pas... la justice ne vient pas de nous. Le salut ne vient pas à cause de ce qu'on fait. Il vient de Jésus-Christ seulement. C'est sur lui qu'on s'appuie. C'est sur lui qu'on doit se baser, qu'on doit dépendre. Et non pas le faire par soi-même. Parce que tant qu'on le fait par soi-même, c'est la preuve qu'on a encore notre propre justice, notre propre vêtement. Puis même si on a un semblant de foi, même si aux yeux des hommes, la personne, un chrétien peut avoir un semblant de foi ou un ministre peut avoir un semblant de justice, Dieu lui regarde au cœur. Puis il voit ceux que le cœur est tout entier à Dieu. Puis ceux qui marchent par leur propre force, leur propre sagesse, leur propre justice. On a l'image dans Luc 18, versets 9 à 14. On a l'image des deux hommes qui vont dans le temple prier, le pharisien et le publicain. Le pharisien dit: Ah, Seigneur, je te loue, je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont pécheurs. Je te loue, moi je prie 2 jours, je prie à tous les jours, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais il se vante. Puis l'autre, le publicain, ça dit que le publicain était prosté à terre, puis l'autre, il se frappait la poitrine, puis là, il disait: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Comment Jésus, il montre cette image-là, puis il dit: Le premier, le pharisien, il n'a pas été agréable à Dieu, il n'a pas agréé devant Dieu, tandis que le publicain, lui, oh, lui, sa prière a été agréée devant Dieu. En apparence, tu regardes ça d'un point de vue purement physique, avec tes yeux, on aurait été porté à dire: Oh, wow, le pharisien, hey, c'est un grand homme de Dieu, lui, il jeûne, il prie, puis il fait toutes tes grandes choses. Tandis que le publicain, on aurait été porté à dire: Oh, chrétien minable. Mais Dieu regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Il regarde celui qui se dépouille de lui-même, qui se dépouille de sa propre justice, qui reconnaît qu'en lui-même, il n'y a pas de justice. Fait qu'il va à Dieu. Puis il se confie en Dieu, il s'attend à Dieu. Il invoque l'Éternel. Celui-là lui est agréable. Mais l'autre, qui se vante de ses propres œuvres, de sa propre justice, aucunement agréable. C'est pour ça que l'apôtre Jean, le verset qu'on a lu au début, il dit, c'est Jésus qui dit: Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Autrement dit, comment pouvez-vous croire? Ce n'est pas une vraie foi. Ce n'est pas une véritable foi. C'est juste une foi de temporaire. Une foi qui est là un temps, mais qui ne durera pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est une foi de. Quand tout va bien, on suit Dieu, mais quand l'épreuve arrive, ben là, on délaisse Dieu. Parce qu'on n'a pas notre confiance en Dieu. On a notre confiance en notre propre force. Ça fait que si l'épreuve surpasse nos forces, comme Saül a vécu, oh, ben là, on va faire ce qu'on peut, on va trouver des solutions par nous-mêmes, plutôt que d'attendre simplement ce que Dieu dit, puis d'obéir à ce que Dieu dit. Si Dieu a dit ça, ben il est capable de le faire, puis il va le faire. Il va être fidèle à ça. Dans Ézéchiel 44, on voit une autre image de ministre. Ézéchiel 44, les versets 10 à 19. Ézéchiel 44, les versets 10 à 19. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison, des parvis. Ils vont faire juste le service dans le parvis. Ils feront le service de la maison, ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et se tiendront devant lui pour être à son service, parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Comme on a vu la semaine passée, ceux-là, ils vont se tenir à l'autel. Les premiers se tiennent au parvis seulement, extérieur, mais ceux-là vont se tenir à l'autel. Ils vont s'approcher de Dieu devant l'autel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir et ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, Ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront là dans la chambre du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. On a l'image de deux sortes de ministres, deux sortes de serviteurs de Dieu. Un peu comme je disais tantôt, Saül et David, deux sortes de serviteurs de Dieu. Les premiers, quand ils sont mis dans des situations de stress, d'épreuve, ils ne se tiennent pas attachés après Dieu. On voit les premiers, les Lévites, mis dans une situation de stress quand le peuple s'égarait. Oh, ils ont laissé le peuple s'égarer eux aussi. Et ils ne sont pas tenus devant Dieu. Ils n'ont pas repris le peuple comme il devait être repris. Ils ont cherché la gloire des hommes, comme on a lu tantôt le verset. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Ils tiraient leur gloire les uns des autres. Fait que quand le peuple s'est égaré, ils se sont égarés eux aussi. Mais les deuxièmes sortes de sacrificateurs, les fils de Tsadok au verset 15, ça dit bien que eux, même si le peuple s'égarait, eux, ils ont continué à se tenir proche de Dieu. Ils n'ont pas cherché la gloire des hommes. Même si le peuple s'égarait, nous, on va continuer à chercher Dieu. On va continuer à s'approcher. C'est-à-dire, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Eux ont continué. Même si toutes les autres s'égaraient, eux, c'était Dieu qui cherchait. Ils s'approchaient de Dieu. Ils étaient entiers dans leur foi vers Dieu. Ils allaient vers Dieu. Ils ont continué à servir Dieu, même si tout le monde autour d'eux s'égarait. Puis à cause de ça, Dieu dit, ceux-là, ils vont avoir une place à part. On le voit plus loin. Les fils de Sadoc, c'est eux qui vont hériter tout le sacerdoce. Tous les autres, ils vont être juste à l'extérieur. Ils pourront même plus entrer dans la présence de Dieu. Ils vont être obligés de se tenir rien que devant le peuple. Parce qu'ils ont servi le peuple. Ils ont cherché la gloire des hommes, mais ils vont se servir devant le peuple. Ils ne pourront même pas s'approcher de Dieu. Mais ceux qui se tiennent fermes, qui tiennent devant Dieu, qui continuent à croire en Dieu, une foi authentique, une foi entière, qui font comme David, Seigneur, eux se fient dans leur char, eux se fient dans leurs chevaux, mais nous, nous nous appuyons sur l'Éternel, nous continuons à t'invoquer. Ceux-là plaisent à Dieu. Ils sont comme les fils de Tsadok. Ceux-là, quand ils s'approchent de Dieu, ils enlèvent leurs vieux vêtements, ils se mettent des vêtements de fin lin, parce que Tsadok, ça veut dire justice en hébreu, c'est fils de justice. Mais on voit comment c'est important de garder la foi, de se dépouiller de soi-même, de se dépouiller de sa propre justice, parce que en nous-mêmes, on n'a pas la force de servir Dieu. On a besoin de sa grâce, on a besoin de sa justice, de sa force. Quand on s'approche de lui, il est suffisant, il est tout. On doit s'approcher de lui avec la foi que c'est lui qui va nous donner la grâce, la force de continuer, la direction, sa sagesse. Quand on fait ça, Dieu dit, ça me plaît, ça c'est agréable. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? C'est cette sorte de foi-là qui est agréable à Dieu. C'est cette sorte de foi-là qui tient jusqu'au bout. Parce qu'elle est authentique, elle est vraie. Elle est tout entière fixée sur Dieu. Ce qui arrive n'importe quoi, elle va tenir jusqu'au bout. Mais une foi qui n'est pas authentique, comme Saül, on l'a vu dans le roi Saül, la première épreuve, il venait juste de commencer son ministère. Puis il arrive une épreuve, puis tout de suite, il désobéit à Dieu. Parce qu'il a commencé à désobéir à Dieu, tout de suite, Samuel a dit, l'Éternel te rejette. Parce qu'il voyait son cœur. Dieu voyait le cœur de Saül. Parce que David aussi a fait des erreurs. Même si c'était un homme selon le cœur de Dieu, David a fait des erreurs. Mais toujours son cœur, à chaque fois qu'il faisait une erreur, il se repentait, il revenait à Dieu, puis il continuait à s'attacher à Dieu. Mais Saül a fait une erreur. Mais il n'a pas voulu s'humilier. Il n'a pas voulu reconnaître son erreur. Il a dit, ah, c'est le peuple s'égarait loin de moi. Puis là, après ça, il va commettre une autre erreur. Il va encore mettre ça de la faute sur le peuple. Ah, mais c'est le peuple qui... Le peuple s'est garé, puis il fallait que... C'est quelqu'un qui ne se dépouille pas de lui-même, qui reste imbu de lui-même, qui continue à croire que par lui-même, ben, on va plaire à Dieu, puis on va faire ça à notre manière, avec notre sagesse, notre direction. Mais ce genre de ministère-là ne plaît pas à Dieu. Dieu désire des gens qui vont le chercher lui, qui vont s'attendre à lui, qui vont se revêtir de Jésus-Christ, se revêtir de sa justice, toujours se revêtir de sa sagesse, parce que c'est en lui seulement qu'on a la vie, c'est en lui seulement qu'on a le mouvement et l'être. C'est lui qui va... Il y a un plan tracé pour nous autres. Il faut s'attendre à lui, comme je disais tantôt, il ne faut pas précipiter nos pas, il ne faut pas aller au-devant de Dieu, de peur que, oh Dieu, il ne sera pas fidèle. Non, Dieu va être fidèle. Dieu sera toujours fidèle. Il faut attendre le temps, le plan de Dieu, et suivre ce que Dieu nous a donné comme direction. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu, c'est la foi. Hein? C'est toujours la foi. La seule chose qui plaît à Dieu, la seule chose qu'on peut apporter à Dieu, c'est notre foi. Mais notre foi, elle doit être authentique, elle doit être complète, entière. Elle ne doit pas être à moitié. Oh, oui, Seigneur, je dépends de toi, mais je dépends aussi de ça, je dépends aussi de ça, je dépends aussi de ça. Non, Dieu ne veut pas que notre foi dépende de 56 affaires. Il veut que notre foi dépende de lui. C'est lui la source de la foi. C'est l'auteur de la foi. C'est lui qui amène à la perfection. Ça dit bien dans l'Hébreu, c'est l'auteur et celui qui la perfectionne. Il a commencé notre foi. Il nous donne la foi. C'est pas notre foi à nous. C'est sa foi à lui. C'est parce qu'on s'est humilié, qu'on s'est dépouillé de soi-même. Il nous donne sa foi avec sa justice, mais il y a aussi la foi. Il nous montre le chemin à suivre. C'est toujours lui. Parce que c'est seulement dans cette foi-là, en Jésus, placé en Jésus à la croix, dans son œuvre à la croix, c'est seulement ça qui est agréable à Dieu. Une foi entière placée dans Jésus-Christ à la croix. On voit dans Exode, verset, chapitre 25, verset 20, on a ici l'image des chérubins de gloire. Les chérubins de gloire, c'est une image que Dieu, la gloire de Dieu veut nous couvrir. La gloire de Dieu veut venir sur nous. Dieu a prévu de répondre à nos prières. Dieu a prévu d'accomplir sa promesse, sa parole pour nous, de manifester sa gloire autour de nous. Exode, chapitre 25, le verset 20. C'est pour ça qu'il avait mis deux chérubins de gloire dans le sanctuaire. Ok, la place où on pénètre au travers du sang de Jésus, qu'on rentre dans le sanctuaire, la place très sainte. Mais il y avait deux chérubins de gloire qui couvraient le propitiatoire de leurs ailes. Au verset 20, ça dit, les chérubins étendaient leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le petit couvercle qui avait une arche. Une arche était carrée. OK? C'était peut-être ça d'autre, carré. Et il y avait un couvercle, la même grandeur que l'arche, qui était faite en or, et qui recouvrait l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. Le propitiatoire, c'est l'œuvre accomplie à la croix. C'est ce qui rend propice à Dieu, c'est le sang de l'agneau. Parce que sur le propitiatoire devait être aspergé le sang de l'agneau qui venait de l'autel. Le sang devait être aspergé sur le propitiatoire, c'était seulement le sang qui faisait que Aaron pouvait pénétrer dans cette place-là. Le propitiatoire, c'est la place où Dieu est propice. C'est-à-dire, où Dieu est agréable. C'est juste le propitiatoire. Puis, les chérubins de gloire avaient leur regard. La seule chose que Dieu, dans sa gloire, voit, c'est le sang de l'agneau. Il regarde le sang de l'agneau. Si on se place par la foi sous ce sang, eh bien, il va répondre à nos prières parce qu'on est sous le sang. Mais si on demande à Dieu d'être béni dans notre propre justice, dans notre propre sagesse, et qu'on ne se place pas sous le sang, Dieu ne regarde même pas. Il ne voit même pas. Parce que les chérubins, avec la seule chose que les chérubins de gloire voyaient, c'était le propitiatoire. Fait que si on ne se place pas là, sous le sang de l'agneau, il n'y a pas d'exaucement possible. Il n'y a rien. Dieu prend même pas plaisir. Il prend pas, il a pas pris plaisir au roi Saül. Il a pris plaisir aux Lévites qui servaient le peuple devant le peuple. Non, il prend pas plaisir à quelqu'un qui n'a pas une foi entière en Jésus-Christ. Il faut apprendre à se dépouiller de soi-même et aller sous le propitiatoire. À la place où c'est plus toi qui décides. C'est plus ta sagesse. C'est plus toi qui dirige Dieu. C'est plus toi qui demande, Seigneur, bénis-moi à ma manière. Non. C'est Seigneur, je me place sous le sein parce qu'il y a déjà toute bénédiction pour moi. Mais à ta manière, en ton temps, sous ta direction, sous ta sagesse, avec ta force, je crois en toi. Je crois que c'est toi. Tu as tout pourvu. Tu es plus que assez. Tu es plus que suffisant. Je me place là et j'ai tout. J'ai tout en toi. Je ne cherche que ta gloire. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Je cherche que ta gloire. C'est-à-dire que je me place sous le propitiatoire. La seule place où Dieu, où la gloire de Dieu est présente, où la gloire de Dieu peut se manifester. C'était une si belle image. Tout leur regard était tourné vers ça. Ça veut dire que si tu pries en disant, Seigneur, ben là j'ai fait ça, Seigneur, bénis-moi. J'ai fait tant de choses, là, Seigneur, bénis notre œuvre, on a fait tant de ministères pour toi, bénis-nous. Le Seigneur, il ne voit même pas. Il ne voit pas ça. Ça lui est aucunement agréable. Il voit juste celui qui s'humilie et qui se place sous le sang. Parce que lui, la seule chose qu'il peut voir, c'est le sang. Si on se place sous le sang, on se place là par la foi. C'est par la foi qu'on se place sous le sang de l'agneau. C'est par la foi, à cause de notre foi, une foi authentique, une foi humble. Parce que la vraie foi, il y a de l'humilité dans la vraie foi. La vraie foi, c'est dépouiller soi-même et être allé se placer là parce qu'elle sait que c'est la seule ressource, le seul refuge qu'on a, c'est Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ à la croix. Fait qu'on se place sous lui, en Jésus, parce que l'arche, c'est Jésus. L'arche, c'est une image de Jésus. On se place en lui, mais sous le propitiatoire, sous le sang de l'agneau, sous son œuvre accomplie à la croix. Et on reçoit de cette œuvre accomplie à la croix justice, on reçoit sanctification, on reçoit sagesse, on reçoit rédemption, on reçoit le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ. La gloire de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Dans sa manière, à son temps. C'est toujours sous le propitiatoire que tout est agréable à Dieu et tout est connecté à Dieu. Et tout, on reçoit là, au-delà de nos besoins. Parce que ça dit bien, Dieu, l'Éternel, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous nos besoins. Mais si on met nos besoins devant, ça ne peut pas, parce que nos besoins sont basés sur moi, ce que je veux. Ça ne peut pas, Dieu ne peut pas répondre. Mais si on se place sous le sang et qu'on s'humilie sous le sang, on dit, Seigneur, toi, tu me connais, tu connais mes besoins. Fait que là, je me place en Jésus, puis je dis, je fais confiance, Jésus, tu connais mes besoins, je sais, tu vas répondre. Et là, la gloire de Dieu se manifeste. Il va répondre selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais ça prend une foi authentique, ça prend une foi entière placée en lui, qui reconnaît que c'est lui le pourvoyeur, c'est lui la ressource, c'est notre époux. Comme je disais sans penser, c'est vraiment notre époux. Puis un époux divin qui a toute force, toute puissance. C'est pas n'importe qui, Jésus. Je sais pas si une femme se marie avec un homme, puis l'homme est super riche, super puissant. La femme va se sentir en sécurité parce que son mari est super riche, super puissant, super fort. Ça fait qu'il n'y a rien qui l'inquiète, lui. Il connaît nos besoins. Il n'est pas insensible à nos besoins. Il nous aime. Il nous aime plus que n'importe quel mari peut aimer sa femme. Il nous aime d'un amour tellement grand qu'on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à craindre parce qu'il nous aime. Il est au-devant, même, ça dit bien, dans Isaïe, ça déplace. Il va même devancer nos demandes, tellement qu'il nous aime. Il va même les devancer. Mais quand il répond à nos besoins, il le répond à sa manière. Parce que lui, il voit nos besoins, mais il voit aussi ce qu'on n'a pas besoin. Dieu voit nos caprices, parce qu'il y a un mot, ça dit bien qu'il répond selon nos besoins, avec richesse. Il va répondre à nos besoins avec richesse, avec gloire. Mais ça ne dit pas qu'il va répondre à nos caprices. Dieu, il voit nos caprices aussi, puis il dit non, non. Il dit, si je réponds à tes caprices, ça ne fera pas de bien à toi. tu veux t'acheter une robe de 200 $, puis tu n'as pas vraiment besoin d'une robe de
Moi.
200 $. Une robe de 20 $ suffirait.
Il suffirait.
Ça fait que ça c'est un caprice, c'est un luxe, une luxure dans le sens. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessairement utile. Comme Paul disait, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Il y a des choses qui sont pas utiles, ce serait un superflu. Fait que Dieu, il connaît ça. Puis il voit aussi les dangers aussi, parce que au travers de ça, la convoitise que le diable envoie à travers du monde peut venir comme assaillir. C'est pour ça que Dieu, il nous place sous le sang. Il dit, reste là sous le sang, réjouis-toi en moi. Hein? Se réjouir en Jésus, que notre époux connaît toutes choses. Faire notre joie en lui, trouver notre joie en lui. Il connaît toutes choses. Il connaît nos besoins. On a lu tantôt comment David disait, eux se fient sur leur char, eux sur leur cavalier. On pourrait dire, eux se fient sur leur ministère, eux se fient sur leur gros job, eux se fient sur ça. Mais nous, nous nous confions à l'Éternel, notre Dieu. Puis là, David il va dire, juste avant, c'était le chapitre 20 qu'on a lu, chapitre 16, il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. David avait appris que se tenir avec Dieu, se tenir devant Dieu. Il dit, tu me donnes plus de joie que lorsque leur froment, leur moût, leur fromage, leur vin abondent. Ça veut dire, c'est quoi l'image? Ça veut dire que en Jésus, par le Saint-Esprit, il peut mettre dans notre cœur plus de joie que le vin, que les gens du monde qui nous boivent du vin, puis qui s'égayent, puis qui sont tous. Dieu, par son Saint-Esprit, peut mettre plus de joie dans notre cœur que tout ça. Il y a pas de... Ça veut dire qu'en lui, on est vraiment comblé. Mais il faut faire confiance. Il faut apprendre à vraiment à se confier entièrement à Dieu, sans crainte, à se reposer sur lui, puis à se dépouiller de soi-même, dépouiller de notre façon de faire les choses, de notre façon de voir les choses, façon de diriger les choses. Pas faire l'erreur de Saül qui, par manque de foi, parce que Saül, il a chuté, parce que là, il a commencé à douter. Samuel n'est pas arrivé. Ça fait 6 jours que j'attends. Samuel n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire quelque chose.
On va le faire à sa place.
Ouais, on va le faire à sa place. On va se débrouiller.
Par
Mais c'est ça. Tout
nous-mêmes.
de suite, là, il a commencé à douter. Tout est Dieu. Mais c'est ça, Dieu veut vraiment qu'on ait la foi, mais la foi jusqu'au bout. À croire, à faire confiance à Dieu. À savoir que lui, il pourvoit nos besoins.